Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Les Français sont-ils des flemmards assistés ? Ce soir, on interroge notre relation au travail. Merci d'être fidèle à jour J, que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
Regarde-nous. Là, bon, ça fait 2 heures qu'on boit un petit café. Hein, d'accord ? On va tout doucement aller vers la pause de midi. Bon, la pause de midi, ça va nous prendre des heures. Bon, mais en attendant, on est là, sur nos lieux de travail. Et entre ces activités, on bosse.
On n'a pas encore bossé aujourd'hui.
Et hier non plus.
Ah ben non,
ah ben non hier on n'a pas bossé parce que non, on avait, oui.
Non.
Et puis oui, il y avait l'atelier carte postale. Ben
non.
On n'a rien foutu.
Et si Catherine et Liliane, à travers ce sketch, nous renvoyaient finalement le miroir de ce que nous sommes parfois au boulot. Bien qu'ils se plaignent de travailler trop, les Français font partie de ceux qui bossent le moins en Europe, très loin derrière l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. De surcroît, les avantages sociaux nous conforteraient dans une certaine nonchalance. En bref, à en écouter certains, on serait des râleurs et trop bien lotis. Mais qu'en est-il vraiment ? Avons-nous perdu le sens et le goût du travail ? Séance d'autocritique ce soir avec nos invités. Rémi Houdguéry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directeur de Sociovision et vous êtes aussi auteur de livres que j'adore, hein, voilà, dont je ferai la promotion un petit peu plus tard, qui n'ont rien à voir avec la tambouille en fait. Hein.
Un petit peu.
Oui, ah oui, 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 parce que ça s'appelle L'échappée belle, l'art de s'évader un peu chaque jour. Vous avez raison, parce qu'effectivement, l'évasion, la part de plaisir est de plus en plus importante aujourd'hui dans la conception du travail.
Oui, tout à fait. Et puis, je pense que des moments d'évasion de temps en temps, ça fait du bien.
Et ça aide à la productivité.
Et ça aide totalement à la productivité.
À vos côtés, Pascal Perry. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, éditorialiste, éco pour LCI, et vous êtes l'auteur d'un livre, Génération Farniente, aux éditions de l'Archipel. Alors, à vous lire, Pascal. On pourrait traduire ça par génération glande. Il va falloir nous expliquer. Non mais c'est vrai, vous n'avez pas choisi ce titre-là par hasard.
Non, alors un titre c'est toujours réducteur. Évidemment il y a le contenu du
mais
livre.
Mais ça résume
mais,
aussi.
Mais ça peut résumer en effet. C'est-à-dire que je dirais que les jeunes sont à peu près comme tous les Français. Vous en avez un tiers qui travaille beaucoup. Vous en avez un tiers qui travaille normalement. Et puis un tiers qui travaille très peu, voire pas du tout.
Mais vous ne parlez que des jeunes ? Non.
Non, bien sûr.
D'accord.
Oui, comme tous les Français.
Que des jeunes. D'accord. Mais dès le début, d'ailleurs, vous visez les fonctionnaires. Vous parlez de certaines scènes auxquelles vous avez assisté lorsque vous travaillez dans le service public à France Télévisions.
Oui, c'est vrai que...
Racontez-nous un petit peu.
La propension au travail n'est pas toujours l'alpha et l'oméga dans certaines catégories professionnelles. Oui, ce sont des métiers de statut dans lesquels on est très protégé, voire trop protégé. Oui, je raconte une ou deux scènes. Je me rappelle notamment de cette petite histoire. Vous savez, au moment des grèves dans les raffineries, il y a de longues files d'attente aux stations-service, et je vois là une équipe de France Télévisions, il y a un journaliste, et puis il y a un preneur d'images. On appelle ça un JRI, journaliste reporter d'images. Il se trouve que celui-ci est OPV, opérateur de prise de vue. Donc on lui demande de déplacer légèrement la caméra pour que le téléspectateur puisse voir la file de voitures qui est là, qui est vraiment très spectaculaire. Et le type répond, non, non, moi je ne suis pas journaliste, je suis OPV, j'ai posé la caméra, je n'y touche plus. Ouais, c'est une petite histoire parmi d'autres, comme les récups. On accumule les récups, les arrêts maladie, etc. On consomme, ce sont des sociétés dans lesquelles les temps libres sont extrêmement importants, peut-être même trop dans certains cas, à tel point d'ailleurs que vous avez à l'intérieur de ces boîtes des gens qui sont passionnés par leur boulot. C'est d'ailleurs ça le paradoxe. Et moi, je le dis aussi, puisque j'ai dirigé des rédactions du service public, c'est dans ces rédactions que j'ai trouvé les professionnels les plus engagés. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui se cachent derrière le statut pour ne pas faire grand-chose.
Rémi Houdguéry, est-ce que vous pensez effectivement que, quelque part, il y a trop de largesse en France dans le domaine du travail et que ça conforte certains dans une certaine, ce que j'appelais une certaine nonchalance ?
Toutes les enquêtes qu'on mène, que ce soit chez Sociovision ou à l'IFOP, montrent quand même que le travail reste fondamental dans la vie des gens. C'est-à-dire que quand vous demandez aux gens qu'est-ce qui est le plus important dans leur vie, bien sûr, il y a leur famille, leurs enfants, mais très souvent, le travail apparaît très haut dans la hiérarchie. Je pense en particulier aux jeunes, quand on leur demande qu'est-ce qui fait que votre vie sera réussie, bah c'est d'avoir un travail passionnant. Donc je pense que majoritairement, très majoritairement aujourd'hui, quand on sonde la population active française, les gens accordent une importance très grande à leur travail. Alors bien sûr, il peut y avoir des gens qui travaillent moins, etc. Ça, c'est une évidence. Mais je pense quand même que si on n'a pas de travail aujourd'hui en France, on n'existe pas socialement. On n'existe pas économiquement, mais on n'existe pas socialement. Donc ça reste quand même une valeur très importante. Simplement, ce que je pense, pense, c'est que le rapport au travail au cours de ces 20 dernières années a beaucoup changé.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
que le travail n'a plus le même rôle dans l'ensemble des activités d'une vie individuelle.
Pascal Perry, la France au travail, ce sont des salariés, mais ce sont aussi des fonctionnaires, des entrepreneurs, des indépendants, des intérimaires, des artisans. Enfin bon, on n'est pas tous logés à la même enseigne dans la relation que l'on peut avoir à notre travail.
Non.
En fonction des responsabilités ouais. aussi qui sont
sûr.
Les nôtres.
De l'intérêt du travail, tout simplement.
Aussi.
Mais vous savez, il y a une quarantaine d'années, on a fait le choix en France, c'est
ouais.
un choix politique, assumé. De désindustrialiser le pays. C'est-à-dire on a choisi d'externaliser des fonctions qui étaient des fonctions à haute valeur technique, qui étaient gratifiantes pour les individus. On était fiers d'être ouvriers, ouvriers qualifiés, contremaîtres, etc. Et on a fait le choix d'une société de service. Dans les sociétés de service, ce qu'on a oublié de dire aux Français, c'est qu'il y avait beaucoup de boulot qui était de la servitude. Et travailler dans le cadre d'un métier qui est un métier adossé à de la servitude, c'est pas agréable.
Ouais.
Et donc, il y a un mouvement de répulsion à l'égard du travail dans ces secteurs en particulier. Et vous conjuguez ça au fait qu'on vit aujourd'hui dans une société du divertissement. Je ne partage pas tout à fait votre formule quand vous dites il y a un intérêt économique et au-delà de l'économie, un intérêt à travailler. Il y a aussi un intérêt économique à travailler, c'est que ça produit du revenu, ça produit de la
bien
richesse.
Sûr, bien sûr,
vous avez des gens aujourd'hui qui ne travaillent pas, mais qui perçoivent un revenu. C'est grâce à ceux qui travaillent, grâce à ceux qui s'engagent, et peut-être qu'un des éléments clés, c'est la nature des qualifications en France. Pourquoi est-ce qu'il y a un mouvement de rejet à l'égard du travail ? C'est peut-être parce que le niveau des qualifications a baissé,
oui.
et parce que beaucoup de boulots sont devenus très inintéressants.
Rémi Houdguéry.
En effet, on vit dans une société dominée par les services. Alors déjà, quand on regarde l'ensemble de la population active, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont fiers de leur travail, hein, qui ouais. le disent, qui trouvent qu'ils sont utiles socialement. Et il y a en effet, on peut dire qu'il y a en gros 70% des actifs aujourd'hui qui sont fiers de ce qu'ils font, qui trouvent utile ce qu'ils font, qui trouvent un certain bonheur à leur travail. Et puis il y a un tiers, en effet, et ce tiers, quand on l'étudie, on s'aperçoit que c'est effectivement ceux qui sont exposés au public, c'est-à-dire qu'ils sont dans les métiers de service, qu'ils sont dans l'hôtellerie, qu'ils sont dans la restauration,
qui sont des secteurs en souffrance aujourd'hui en termes de recrutement.
En souffrance et puis qui sont un petit peu le réceptacle d'une certaine forme de dégradation des relations sociales et donc qui sont exposés à des choses qui font que il y a de l'absentéisme, ça crée de l'absentéisme parce que les gens se sentent sous pression. Il y a aussi des interrogations, c'est est-ce que vraiment je veux rester dans ce secteur. Et pendant le Covid, on l'a vu, ce sont les
oui.
premiers à s'être interrogés, à avoir disparu soudainement des listings. Donc c'est vrai qu'en effet, il y a une partie de la population aujourd'hui dans des métiers qui sont très exposés, qui n'ont plus cette passion qu'il pouvait y avoir avant.
Messieurs, vous restez avec moi, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 21h. On va parler dans un instant de tous ces changements ces dernières années. Vous l'avez évoqué, le Covid, le télétravail. Voilà, est-ce que tout ça, ça a modifié en profondeur aussi notre relation au boulot? Et puis on parlera du salaire, le fameux SMIC, et du salaire décent. C'est quoi avoir un salaire décent en France aujourd'hui? Eh bien, ce sera dans un instant, dans Jour J. Rémi Houdguéry et Pascal Perry sont nos invités. Rémi Houdguéry, qui est sociologue, et Pascal Perry, qui est économiste et auteur d'un ouvrage, Génération farniente, pourquoi tant de Français ont perdu le goût du travail.
Oui.
Parce que c'est de ça dont on va parler aussi un petit peu plus tard, c'est la saveur du travail. Et ce que ça peut représenter aussi dans un épanouissement global dans une vie. Mais auparavant, avant, Rémi Houdguéry, vous venez de nous dire, ben voilà, ces 10-20 dernières années, notre relation au travail a changé, mais notre façon de travailler a fondamentalement été modifiée aussi. On travaille plus dans les mêmes conditions aujourd'hui.
Non, il y a déjà un quart de la population aujourd'hui qui télétravaille.
Ouais.
Donc ça, c'est un changement massif, majeur, qui bouleverse toute l'économie, mais qui bouleverse aussi les modes d'organisation. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, la deuxième chose qui a changé en 20 ans, et nous, on le voit très très bien, c'est le rapport entre le travail et la vie personnelle, ou la vie de famille. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, rappelez-vous, à la fin des années 90, début du 21e siècle, on se projetait relativement aisément à l'avenir. On pouvait se dire que dans 10-15 ans, notre situation matérielle aurait augmenté, on aurait acquis un bien, etc. Et donc, on était prêt à sacrifier une partie de notre temps personnel pour consolider, sécuriser cette situation future.
Ce que d'aucuns considéraient comme une réussite. En fait,
voilà.
Le travail, c'était la réussite.
Exactement. Et beaucoup de gens étaient dans ce schéma-là, tout à fait prêts au sacrifice. Et puis, en 20 ans, tout ça, les nuages se sont accumulés dans le ciel de l'avenir, et on n'a plus du tout ce ressenti-là. C'est-à-dire que quand on réfléchit aux 5, 10, 15 prochaines années, les nuages, c'est quoi? C'est le réchauffement climatique, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle, c'est le recul dans la mondialisation. Enfin, c'est plein de repères que nous avions il y a 20 ans qui ne sont plus du tout valides. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que les gens se disent, il faut que je profite du temps présent parce que je ne sais pas du tout de quoi demain sera fait. Et donc, il est important de préserver ma vie personnelle. Ça ne veut pas dire que le travail n'est plus important, ça veut dire que je mets des frontières qu'auparavant je ne mettais pas, et donc ça donne dans les entreprises et dans pas mal de secteurs le fait qu'on refuse de faire des heures supplémentaires, que les cadres refusent de faire des week-ends qu'ils sacrifiaient autrefois. Mais, et ça, c'est un vrai changement qui peut perturber les générations qui ont vécu avant les années 2000, hein, et il y a aujourd'hui parfois des incompréhensions dans les entreprises.
On reviendra justement sur ces incompréhensions et à quel point cette, la jeune génération, ce qu'on appelle génération Z, est parfois assez déconcertante. Je vous vois opiner du chef, là, vous n'avez pas l'air vraiment d'accord. Alors, là, Pascal.
Plus ou moins, parce que, en dépit de mon âge, je pense
de votre
que
grand
l'avenir,
âge, voulez-vous dire
de mon grand âge, je pense que l'avenir est désirable.
Et ça dépend lequel.
Je convoque un peu l'histoire. L'avenir du pays. Moi, je considère que l'avenir français est un avenir d'abord à bâtir, mais qu'on a un modèle social extrêmement résilient, très puissant, on vit dans une société très confortable, on est plutôt bien protégé. Et il faut d'ailleurs protéger ses protections, si je puis dire. C'est la raison pour laquelle je défends le travail, parce qu'en France, on a fait ce choix, et c'est un choix historique. C'est en même temps un grand choix politique. En 45, le Conseil national de la Résistance, vous avez des communistes, des gaullistes, des démocrates autour de la table, dit « c'est le travail qui va financer le modèle social, par les cotisations sociales ». La différence avec le modèle anglais, où c'est les impôts qui payent la solidarité nationale, c'est plus une politique d'assurance, c'est une politique d'assistance. Mais si je peux résumer les choses, c'est un peu à votre bon cœur, monsieur, dame. Et on se tourne vers l'État quand ça va mal, et l'État donne ce qu'il peut. Alors que dans le cas des cotisations sociales, vous payez pour avoir une contrepartie. Oui. L'assurance maladie, l'assurance retraite, et ça c'est le travail qui le paye. Donc il faut absolument protéger le travail. Alors, j'admets qu'il y a eu des changements, je vois qu'on est sorti des Trente Glorieuses, qu'il y a aujourd'hui effectivement des tensions dans la société. Il y a eu cet épisode du Covid. Je crois qu'il faut en dire deux mots quand même, parce que tous les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés, alors ça n'a pas valeur de sondage, je l'admets, me disent « le Covid a été pire que les 35 heures ». J'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Je crois que ça veut dire que pour beaucoup de Français, le revenu a été décorrélé de l'activité. C'est-à-dire qu'on est le seul pays du monde dans lequel l'État a salarié 11 millions de salariés du secteur privé.
C'est effectivement ce qui s'est produit.
Ouais, c'est ce qui s'est produit. Et donc les gens se sont dit, mais c'est sympa de rester chez soi, de consommer du temps pour soi. Et donc ça rejoint un vaste mouvement que Jean Viard, votre confrère sociologue, décrit assez bien quand il dit le travail a structuré le temps de vie au XXe siècle, parce qu'il fallait reconstruire le pays, parce qu'il y avait de la croissance, parce qu'il y avait de l'espérance. Aujourd'hui, c'est le temps de vie personnel qui structure le temps de vie tout court. Et le travail est parfois présenté, c'est là où moi je suis un peu critique, comme une option dans la vie. C'est aussi une option parce qu'on a un système social de protection. On a tous des exemples autour de nous d'enfants de bobos, des centres-villes, qui consomment un an de chômage pour aller faire le tour du monde. Ça existe. Je ne dis pas qu'il y en a partout.
En préparant cette émission, j'en ai appris beaucoup, effectivement, et j'ignorais que c'était... pas monnaie courante, mais en tout cas, c'était...
Ça reste.
C'est marginal, sans doute.
Marginal, mais enfin, quand même.
Mais significatif. Mais de la même façon, vous avez quand même des millions de gens pour qui, et je ne leur jette pas la pierre, le fait d'être assisté est profitable par rapport à la situation de l'activité. Ouais. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas fait en sorte qu'il y ait un écart net entre les revenus de l'activité, on va parler des salaires, il faut payer les gens décemment. Si vous voulez que les gens bossent, il faut leur donner... Vous savez, souvent, on entend dans les boîtes « tu fais semblant de travailler ». Oui, mais mon patron fait semblant de me payer. Bon, dans ces conditions, à l'évidence, on n'a pas très envie de travailler. Mais quand il n'y a pas d'écart entre les revenus de l'assistance et les revenus d'un travail sans qualification, soyons pas étonnés que les gens préfèrent l'assistance.
Alors, on va se retrouver dans un instant. Rémi Hautguéry, je sais que vous avez des choses à dire, mais ce sera juste après sur RTL. On parlera justement des revenus et des valorisations des revenus. On parlera notamment de Florent Ménégo, c'est le patron de Michelin, et lui, il a décidé que le SMIC n'était pas suffisant, et donc il a proposé à ses salariés ce qu'il appelle un salaire décent.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Dans ce studio ce soir, d'un côté un sociologue, de l'autre côté un économiste, qui ne sont pas toujours complètement D'accord. Voilà, on parle de notre rapport au travail. On va maintenant parler des salaires, messieurs, si vous le voulez bien. À la question à partir de quel revenu peut-on s'estimer riche, voici ce que l'on entend.
Je dirais qu'à partir d'un salaire de, on va dire, de 3 000 ou 4 000 euros.
Quelqu'un qui gagne entre 10 et 15 000 euros par mois.
Ça arrive 4 000, 5 000 euros par mois. Voilà.
Selon un rapport de l'Observatoire des inégalités, le seuil de richesse serait de 3 673 euros mensuels pour une personne seule après impôt, ce qui concerne seulement 7% des Français.
En vivant tout seul, ouais, 3 000, c'est déjà pas mal. Quand on commence à être un petit peu à l'aise et pouvoir se faire plaisir à côté, oui, c'est déjà une forme de richesse. Ouais. Il y a tellement de pauvreté à côté que ouais, c'est déjà pas mal. Ouais.
Bah, 3 600 euros par personne, on vit confortablement, mais on ne peut pas dire qu'on est riche non plus. Hein.
3 600 euros, on vit bien, mais on n'est pas riche.
Alors, réaction de nos invités, Pascal Perry.
Non, il n'y a pas tant de pauvreté que ça en France. J'entendais un jeune homme là dire, il y a tant de pauvreté. C'est pas vrai. L'écart entre les revenus primaires, le revenu de base, est de 1 à 18. Après redistribution, on tombe à 1 à 3.
C'est-à-dire voilà, moi, je comprends rien.
Alors, je vais vous expliquer.
D'accord, alors, mais là, il faut me parler comme à une enfant de 4 ans.
Le revenu que vous touchez
oui.
En haut de l'échelle, en bas de l'échelle,
oui.
Il y a un écart de 18.
D'accord.
Vous passez tout ça au tamis de la redistribution. Par l'impôt, par d'accord. Les prestations sociales, l'écart redescend de 1 à 3. Donc finalement, si je résume les choses, je peux vous dire que 60% du revenu des gens les plus modestes provient de transferts de revenus des gens les plus riches.
Okay.
Donc on est quand même un pays redistributeur. Alors, sur le salaire, qu'est-ce qu'il faut pour vivre ? Ben, là aussi, il y a une géographie des salaires en France. Si c'est pour vivre dans le centre de Paris... Il faut 5 SMIC.
C'est pas du tout la même chose, on est entièrement d'accord.
Si c'est pour vivre à Châteauroux ou à Charleville-Mézières, c'est pas le même prix.
Et l'inflation est pour tout le monde.
L'inflation n'est pas nécessairement la même pour tout le monde. Parce que quand vous regardez la structure de dépenses des ménages, je ne veux pas rentrer dans le détail, ce qu'on appelle le taux d'effort alimentaire en France, c'est 12%. Mais le taux d'effort pour le logement, c'est en moyenne 30%. Et comme toutes les moyennes, il y a des écarts. Un appartement de 60 mètres carrés à Paris coûtera 5 fois plus cher qu'un appartement de 100 mètres carrés à Limoges ou à Saint-Étienne. Donc vous voyez, l'inflation, elle est pas, c'est pas simplement les courses du quotidien.
Le travail, c'est pas que la santé, c'est l'argent aussi, et surtout en fait, aujourd'hui, Rémi Houdguéry.
Oui, ça reste l'argent, c'est-à-dire
la première
que
motivation.
Quand vous demandez aux gens qu'est-ce qui les motiverait à changer par exemple de travail, très souvent, enfin pas très souvent, la majeure partie vous disent d'abord la reconnaissance de la rémunération.
Oui.
Ça reste le numéro un. Ensuite, on a l'autonomie, les gens veulent être autonomes aujourd'hui, avoir une certaine autonomie, ça veut dire qu'on leur fasse confiance.
Oui, c'est ça.
Et puis ensuite, le dernier point, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire, c'est vraiment le fait d'être reconnu dans son travail, parce que très souvent, y a des personnes qui travaillent et qui n'ont pas vraiment de feedback sur leur travail, est-ce qu'on est satisfait d'eux, etc. Donc, ils travaillent un peu à l'aveugle. Donc ça, mais je dirais effectivement, surtout depuis la sortie du Covid et depuis l'émergence de l'inflation, c'est devenu encore plus important parce que...
La rémunération,
vous voulez dire. La rémunération, ouais. Parce que c'est vrai qu'un Français sur deux qu'on interroge nous dit qu'il a du mal à... Même plus d'un Français sur deux à faire face aux dépenses simplement de base.
Le SMIC aujourd'hui, alors vous me confirmez ça, Pascal Perry, il est de 1766 euros brut par mois, 1398 euros net. Selon Florent Ménégo, c'est le patron de Michelin, vous le connaissez, le SMIC, il n'est pas suffisant. Alors il a annoncé la mise en place de ce qu'il appelle un salaire décent, on l'écoute.
Le salaire minimum, il est défini pour dire qu'il faut qu'un salaire puisse permettre à une famille... composé de deux adultes et de deux enfants, de pouvoir avoir accès non seulement à la nourriture, mais aussi au logement, à la culture, au transport, aux loisirs, aux vacances. Et parce que derrière, ce qui est important, c'est qu'une personne puisse se projeter. Ouais. La condition, c'est que les personnes qui travaillent chez Michelin s'y retrouvent.
Alors, ce qu'il appelle un salaire décent, ça a été mis en place il y a quelques jours. Il équivaudrait à 39 638 euros bruts par an à Paris. Et effectivement, il fait une différence entre Paris et la province. Et 25 346 euros à Clermont-Ferrand. Le SMIC annuel, ça fait 21 203 euros. Donc là, il y a une vraie valorisation des revenus des employés chez Michelin.
C'est une entreprise particulière.
Alors, avec une histoire particulière.
Une belle histoire.
Exactement, je suis d'accord.
C'est une entreprise dans laquelle le fondateur crée, au moment où il développe l'activité industrielle, des familistères, des économas, des écoles, des crèches, des logements.
En fait, il fait de Michelin une sorte de famille professionnelle.
C'est une grande famille.
Ouais,
et il y a une fierté d'ailleurs à Clermont-Ferrand, où j'ai passé une petite partie de ma vie. Donc, on dit à Clermont-Ferrand qu'on est BIB. bibindome. Vous voyez, le gros bonhomme.
Ah bah oui, oui, tu m'étonnes.
Alors, on est bibindome, on est bib, etc. On affiche une certaine forme de fierté. Parce que, il y a ce sentiment d'appartenance, en effet. Et donc, dans cette entreprise, il y a un esprit social depuis très longtemps. Et Florent Ménégaud, il pose une question qui devrait interroger le modèle du SMIC. Le SMIC est le même pour tous en France, alors que les conditions de vie économiques sont très différentes selon qu'on est à Clermont-Ferrand, à Limoges, dans une petite ville, à la campagne ou dans le centre-ville d'une métropole. Est-ce qu'il faut imiter, par exemple, nos voisins allemands qui ont des SMIC? Alors, il y a un SMIC général en Allemagne qui est à 2000 euros, mais pour 40 heures, pas pour 35. Mais est-ce qu'il faut des salaires par métier? Est-ce qu'il faut des salaires par région? C'est une remise en cause complète du modèle social français, qui est un modèle très égalitariste. Mais on voit que ce modèle, il comporte aussi des limites, parce que vivre avec le SMIC dans une grande ville, c'est impossible aujourd'hui, on peut pas vivre correctement. On mène de la survie. Et puisque c'est le sujet du jour, comment voulez-vous que les gens soient motivés, heureux au travail, enthousiastes,
pour une rémunération,
quand ils sont mal payés, même s'ils n'ont pas de qualification? Leur travail, il peut être socialement utile. Le Covid qu'on évoquait tout à l'heure a montré qu'il y avait des jobs qui étaient économiquement mal considérés, peu payés, mais qui étaient socialement utiles. Les aides-soignantes, les personnels de libre-service dans les supermarchés, l'enlèvement des ordures ménagères, tout ça, c'est des boulots socialement utiles. Donc, il faut que la collectivités acceptent de les payer plus cher.
Rémi Audguéry, ça c'est vraiment l'argent qui permet, selon ceux qui sont sondés, d'avoir une meilleure qualité de vie?
Là, je suis tout à fait d'accord. Il y a clairement des inégalités sur le territoire qui sont ressenties par les salariés, par les actifs. Moi, ce que j'observe dans les enquêtes qu'on mène, c'est que en 2023-2024, il n'y a jamais eu autant d'actifs qui demandent aux entreprises de garantir justement de bonnes conditions de travail, de bonnes rémunérations, alors que les années précédentes, c'était moins d'actualité. On sent vraiment que il y a eu le Covid, mais il y a surtout l'inflation. Enfin, moi, je pense que l'inflation est un phénomène qu'on n'avait pas connu depuis plus de 40 ans. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui, les actifs, ne l'avaient pas connu en réalité. Et la durée de ce phénomène, l'intensité de ce phénomène, il ne faut pas le sous-estimer, parce que nous, tous nos indicateurs, l'année dernière, ont battu des records. Ce qui veut bien dire qu'il y a une secousse économique quand même dans notre pays qui est importante. Alors, il y a vraiment un choc. Ouais. Après, les solutions politiques, évidemment, elles sont là.
Et bah justement, les politiques, on va en parler dans un instant. Ce sera dans la suite de jour J. On note aussi, et depuis plusieurs années, c'est que les Français veulent avoir un travail qui a du sens. Voilà. Donner du sens à sa vie professionnelle. Et vous, vous êtes heureux dans votre travail, justement. Bah, on va en parler avec vous. À tout de suite.
Tout le monde veut rester à la maison et attendre qu'une enveloppe arrive par le facteur où on leur dit, voilà votre salaire, reste à la maison devant la télé tranquille. Il faut bosser, il faut aller au charbon.
On a découvert la liberté un peu, non? La vie sans le travail, c'est bien. On se pose d'autres questions de réalisation de soi. On peut vivre autrement que par et pour le travail. Je crois que c'est très sain, au contraire. C'est pas juste la flemme.
Voilà, deux avis qui diffèrent. Les Français sont-ils fâchés avec le travail? C'est la question que l'on pose ce soir à nos invités, l'économiste et chroniqueur Pascal Perry et le directeur de Sociovision, Rémi Audguéry. Il a dû vous plaire, l'Alsacien, là.
Oui, alors, c'est un peu brutal.
Oui, il est un petit peu direct, mais enfin, ce qu'il est en train d'expliquer quand même, c'est que...
C'est un phénomène qui existe.
Oui.
Et rien
de quoi,
ne serait...
les assistés qui...
Oui,
qui...
Non, mais si on veut trouver des solutions, il faut regarder la situation telle qu'elle est, non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et ce phénomène existe, il est, à mon avis, au-delà du marginal, et donc il faut pouvoir le traiter.
Oui. Voilà.
Et donc ça, c'est la question qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la rémunération.
Oui.
Il faut... Vous savez, la carotte... Ça marche toujours mieux que le bâton.
Rémi Audguéry.
Oui, mais il y a d'autres demandes également qu'il faut considérer. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui veulent s'organiser parce qu'ils ont des familles, parce qu'ils ont des enfants à aller chercher, parce qu'ils ont une vie personnelle qui leur tient à cœur.
On va en parler.
Et c'est totalement légitime également. Et c'est pas du tout... pour moi, c'est pas du tout de la flemme ou de la paresse. C'est simplement que les gens se disent « je travaille », mais il n'y a pas que le travail dans la vie. Et ça serait, il est bon aussi de le rappeler.
Qu'est-ce qu'il y a?
Non.
Qu'est-ce qu'il y a encore, Pascal Perry?
Sur le temps de vie.
Oui.
Parce que, non, je réponds.
Après, on passe aux politiques.
Je réponds à Rémi. Sur le temps de vie, 480 000 heures, à peu près, le temps de vie, si on vit 80 ans, à peu de choses près.
Ah, on vit 480 000 heures.
C'est ce que vous faites le compte.
D'accord.
Voilà.
Ouais, c'est pas mal, dites-vous.
Vous multipliez les heures par l'espérance de vie autour de 80 ans, et si on retranche le sommeil, on travaille 20% de son temps de vie éveillé. Alors, on a quand même le temps, à ce prix-là, si je puis dire, de s'occuper de ses gosses, de sa femme, et même au-delà de sa famille et de ses copains, si vous voulez.
Oui, mais en même temps, on ne va pas se tuer sa vie au boulot pour arriver à la retraite en étant complètement décatillé, en ne pouvant pas kiffer.
Vous savez quel est le temps de vie moyen à la retraite en France ? C'est 25 ans. Donc, les gens qui arrivent à la retraite ont encore, croyez-moi, une belle espérance de vie.
Tout dépend des métiers. On ne meurt pas à 62 ans. Non, mais la pénibilité de certains métiers, Pascal Perrin,
on n'en tient compte.
On ne peut pas l'ignorer. On en tient compte. Bon, je voudrais qu'on parle des politiques, si vous le voulez bien. On écoute Emmanuel Macron, c'était en 2018.
Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier.
Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème.
Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés et les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment.
Est-ce qu'il avait tort ? Ça, c'est une sortie qui a fait polémique. Il invite cet homme à traverser la rue en disant « Allez-y, il y a des secteurs qui recrutent, vous avez juste à traverser la rue, vous allez trouver du boulot. » Est-ce que les responsables politiques ont une responsabilité dans la motivation qu'on a à travailler avec une sortie comme ça ? Est-ce qu'il avait raison ou pas ?
Statistiquement, il a raison.
D'accord.
Politiquement, il a tort.
Ok.
Parce que les obstacles au retour à l'emploi, on les connaît. On sait qu'il y a un ajustement possible de l'offre et de la demande en matière d'emploi, mais qu'il y a des obstacles. Les gardes d'enfants, les transports, enfin, c'est des choses extrêmement pratico-pratiques, si je puis dire. Donc, il y a, la volonté, évidemment, mais il faut régler aussi tous les autres problèmes. Les problèmes de formation, et puis des problèmes strictement domestiques. Donc oui, traverser la rue, aller chercher un boulot dans un bistrot, ça, c'est tout à fait possible. Je pense que les enjeux du débat sur l'emploi ne se limitent pas à ça.
Évidemment.
Et on n'a pas tous vocation à travailler dans les bistrots. Enfin, je veux dire, c'est parce que cette phrase, elle est un peu simpliste, en fait, la phrase d'Emmanuel Macron. Et c'est presque un mépris, quand même, qui est adressé.
C'est pour ça que je demandais.
Cherche un travail dans des régions où il y en a peu, ou dans des secteurs où il n'y en a pas, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est une stigmatisation.
Est-ce que ça ne démotive pas, justement, cette stigmatisation ? Est-ce qu'elle ne démotive pas non plus
En tout cas, elle est ressentie comme une stigmatisation, justement.
C'est pas incitatif. C'est pas la bonne façon de faire.
Exactement, c'est trop négatif.
Oui.
C'est...
Et je pense qu'il faut prendre le problème différemment. C'est qu'il faut le prendre à travers la question du salaire, la question des formations. Ouais. Mieux on est formé, mieux on gagne sa vie, plus on trouve du travail. C'est une règle de base, c'est une loi d'airain.
Ouais.
Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça commence par ça. Donc, des formations, les gens qui sont au bord de l'emploi sont souvent des gens qui n'ont pas de formation. Et puis c'est aussi à l'intérieur des entreprises, parce qu'on évoque les responsabilités, mais dans une entreprise, il y a un chef d'entreprise. Mmh. Il y a ce qu'on appelle le management, un peu pompeusement. Mmh. Et on a en France, quand même, encore une espèce de tradition caporaliste, c'est-à-dire de management par la directive. Et ce que veulent les jeunes, moi j'essaye de comprendre ce que veulent les jeunes. Alors, des jeunes qui, effectivement, comme tous les autres, veulent rester à distance du travail. Mais vous en avez beaucoup qui sont super motivés. Et quand ils arrivent dans une entreprise, ils ont du mal à se réaliser. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est qu'on ne leur explique pas à quoi sert leur travail. Quand on dit quête de sens, utilisiez ce mot-là, quête de sens. Mais quête de sens, c'est des choses simples. Je travaille, je m'engage, je veux savoir à quoi sert mon engagement. Est-ce qu'il est utile pour moi, pour l'entreprise, collectivement, pour la société ? C'est pas sorcier. On n'est pas, c'est pas napoléonien. Vous voyez, il faut sortir du management napoléonien pour rentrer dans quelque chose de plus ouvert.
Mais vous parlez des jeunes, mais en fait, on va leur accorder une séquence entière, mais tout le monde, en fait. Oui, parce qu'il y a des phénomènes, le burn-out, le bore-out, qui est le fait de s'emmerder au travail.
Et pour compléter ce qu'a dit Pascal Perry, je rajouterais quand même que le problème de la phrase de tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de chômeurs qui veulent travailler, y compris d'ailleurs peut-être dans des bistrots, mais qui, du fait de leur âge, parce qu'on ne parle pas de ce problème du chômage des seniors, il y a une vraie... Non, mais c'est un vrai sujet, c'est qu'à partir d'un certain âge, il est extrêmement difficile et extrêmement long de retrouver quelque chose. Donc il ne suffit pas de traverser la rue. Il faut que les mentalités dans l'univers professionnel changent pour pouvoir intégrer. Donc il y a la formation pour les plus jeunes et une partie des actifs. Et puis, il y a aussi l'accompagnement pour les plus seniors et puis changer le regard sur les seniors.
Il y a Pascal Perry là qui vient de me négocier quelques secondes supplémentaires, ça va vous coûter cher.
Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues dans ce monde-là et il faut les vaincre.
Ouais, je comprends.
Il y en a une notamment qui disait il y a une partie significative des chômeurs qui ne cherchent pas de boulot. Il se trouve qu'il y a 48 heures, il y a une étude qui a été publiée et qui nous dit en substance que 85% des gens qui sont au chômage en France cherchent activement un emploi. Donc, le mythe du chômeur un peu professionnel tombe de lui-même. Il faut traiter les 14 ou 15% qui restent.
Voilà.
Mais ça veut dire qu'il y a des obstacles ailleurs et que ces obstacles, il faut les identifier, okay, les vaincre, si on veut ramener la France au travail.
Ok, parce qu'on a le sentiment parfois, effectivement, que les conditions du chômage en France participent du découragement aussi à rechercher du boulot. Il y a Gabriel Attal et Emmanuel Macron qui ont dit qu'ils allaient serrer les vis maintenant.
Parce qu'on a un système.
La réforme sera plus stricte.
Formidablement généreux, mais qui est surtout formidablement endetté.
Oui, et ça, on l'aura bien compris. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Toujours en compagnie de nos invités, Pascal Perry et Rémi Oudguiri. Messieurs, on n'a pas le même rapport au travail que l'on ait 60, 50, 35 ou 20 ans avant de parler de la génération Z, ceux qui sont nés entre 97 et 2010, donc tous les petits cons, je rigole, enfin bon, tous les petits jeunes, voilà, qui débarquent pour certains d'entre eux sur le marché du travail. Je voudrais qu'on parle de ceux qui se rapprochent de la sortie. Vous venez de me dire quelque chose d'hyper intéressant, Pascal Perry, hors antenne. Vous m'avez dit, en fait, l'entreprise, elle est quoi ? Elle est cruelle avec les seniors ?
Oui.
Vous m'avez dit quoi comme mot ? C'était très fort.
Ben, je crois que c'est un comportement incorrect. Je vais être poli pour dire que, oui, il y a en France une espèce de tradition culturelle qui consiste à se séparer des plus âgés, parce que souvent, dans les grilles salariales, ce sont les salaires les plus élevés.
Oui, bien sûr.
Alors, comme parfois, on gère plutôt le compte de résultats que des perspectives de long terme, on se dit qu'on va remplacer les vieux qui savent par des jeunes qui savent moins.
Et qui demandent
à l'évidence,
moins,
qui demandent moins, qui sont moins exigeants, évidemment. Et c'est une perte de capital considérable. Je veux dire qu'il y a une responsabilité collective des entrepreneurs en France. Vous savez, il y a, dans le travail, il y a le capital physique, corporel, et puis il y a un capital immatériel.
Ouais.
Vous avez des gens qui savent, qui ont la mémoire de l'entreprise, la mémoire des métiers, qui sont capables de la transmettre, qui ont encore de l'envie. Regardons les chiffres de la démographie, les chiffres de l'espérance de vie. À 60 ans, dans la majorité des cas, vous êtes jeune encore, vous avez de l'enthousiasme. C'est-à-dire que c'est un âge idéal. Entre 50 et 65 ans, on a toujours de l'énergie, on sait des choses, et donc on est utile aux entreprises. Et souvent, malheureusement, les chefs d'entreprise se débarrassent des seniors, les plans sociaux les concernent, et donc on organise des systèmes de pré-retraite. Alors c'est très culturel en France depuis la sidérurgie dans les années 80, mais aussi on les met au chômage, et donc on transfère finalement, on transforme une espèce de pré-retraite en assurance chômage, vous voyez, en passage par l'assurance chômage. C'est déloyal d'abord, parce que c'est pas la vocation de l'assurance chômage de payer des gens en pré-retraite, et je pense que c'est une perte de capital considérable.
Rémi Oudguiri.
Oui, non, mais là, je suis tout à fait d'accord, c'est ce qu'on observe. C'est effectivement cruel. Et alors, c'est intéressant parce que je vais casser une idée reçue, c'est que, en fait, les plus désenchantés par le travail, c'est souvent les 50, 55 ans et plus dans nos enquêtes. En fait, les plus enthousiastes, c'est souvent ceux qui n'ont pas encore au travail. C'est les jeunes qui n'ont pas encore commencé leur carrière. Quand on regarde la courbe de l'enthousiasme par rapport au travail, c'est très haut au début de carrière. Ensuite, ça se maintient, ça commence à baisser. Ça baisse pas mal au milieu parce qu'il y a d'autres priorités, les enfants, etc. Ça remonte après, quand on a les responsabilités. Et puis, ça redescend, justement, à partir de 55, parce qu'on sent bien qu'on est devenu, on est sur la corde raide, on se sent menacé, on sent bien que si on perd sa place, eh bien, il y a justement...
C'est fini.
C'est fini, presque.
Potentiellement, tu as peu de chances d'en retrouver une.
Et donc, en effet, ça devrait être une cause nationale. Et c'est le paradoxe absolu de notre époque. On n'a jamais vécu aussi longtemps, on n'a jamais été aussi en aussi bonne santé, comme Pascal Perry l'a rappelé, qu'aujourd'hui. Et pour autant, à 50, 55 ans, c'est terminé.
Si on fait monter le taux d'emploi des 55-64 ans, en réalité, on fait monter tout le taux d'emploi. Et là où je veux en venir,
dans quel sens ?
C'est à la chose suivante. Ben, y a trop de gens. Il y a trop de gens qui sont inemployés. Entre 62 et 64 ans, vous avez un tiers des gens qui travaillent aujourd'hui. Et même entre 60 et 62, vous avez un tiers des gens en emploi. Donc quand on parlait de la retraite de 62 à 64 ans, je veux bien. Encore faut-il encore avoir un job à 62 ans.
Ouais,
donc je prends les 55-64 ans, le taux d'emploi est faible. Ça fait diminuer la moyenne du taux d'emploi. Et c'est essentiel, le taux d'emploi, c'est plus important que le chômage. Parce que ça détermine le volume des rentrées sociales et fiscales. Si nous avions le même taux d'emploi que nos voisins allemands, nous aurions, Flavie, 100 milliards, je dis bien 100 milliards de recettes fiscales et sociales supplémentaires chaque année. C'est-à-dire que nos problèmes de déficit
seraient réglés par cette simple question.
Immédiatement, un peu plus de travail, un peu plus de taux d'emploi, et vous réglez le problème des finances publiques. C'est pas formidable, ça ?
Et en plus, on peut rajouter que ça rendrait beaucoup plus optimiste quant à l'avenir. Parce que si vous pouvez vous projeter dans une société où justement on fait des efforts pour garder, prolonger la carrière des gens, bah, quel message positif ça rend à l'ensemble de la société, notamment ceux qui se rapprochent de cette échéance et qui verraient que finalement l'avenir n'est pas aussi noir que celui qu'il a été depuis des décennies.
Vous l'avez dit à Bruno Le Maire, ça, Pascal Péri ?
Oui, et moi je pense qu'il en est conscient. Je pense qu'il en est conscient.
Non, mais après j'imagine que c'est une réforme qui est globale. Enfin, c'est quelque chose d'énorme.
C'est une réforme globale. C'est une réforme culturelle.
Oui, c'est ça, exactement.
Les Allemands n'ont pas tout à fait la même approche que nous.
Oui, oui.
Les Anglais non plus. Vous avez même des pays comme le Japon. Vous avez des gens qui sont encore en activité à 70 ans, quand leur santé le permet. Hein. Il s'agit pas.
Ouais, c'est aussi une population qui est pressurisée par l'emploi.
Surtout une population qui décroît. C'est-à-dire que le Japon perd 1 million d'habitants par an. Donc il faut faire travailler, y compris ceux qui sont.
Je ne sais pas si c'est vraiment la joie. Vous voyez ce
non,
ce
n'est pas la joie. Mais regardons autour de nous. Regardons par exemple les pays d'Europe du Nord. On vit bien quand même dans ces pays. C'est des pays socialement très avancés.
Vous voyez, la Finlande, c'est un des pays qui travaille le moins en Europe, comme la France d'ailleurs.
Oui, mais à côté de ça, la Suède, le Danemark sont des pays où on travaille plus, où il y a une couverture sociale qui est également très très généreuse, mais tout a été fait pour accompagner les gens qui vieillissent. Le rapport au travail, il évolue. On ne travaille pas de la même façon à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans. Donc, on est toujours utile. La question de l'utilité, elle ne se pose pas. On est toujours utile à son entreprise, à sa famille, à la société. Simplement, il faut que les patrons français sortent de l'idée, vous savez, l'idée anglaise du « one size fits all », la même taille pour tous. Mais non, c'est pas la même taille pour tous, parce qu'il y a l'évolution du parcours, de la capacité, de l'expérience, il y a un capital matériel et un capital immatériel, et tout ça, ça a de la valeur, il faut l'apprécier.
On n'a pas encore parlé des jeunes, on va en parler. Rémi Oudkiri, je vous voyais partir, mais ce sera dans un instant. Restez bien devant votre micro. Je vous donne la parole en premier, juste au retour de Jour J. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Allez, on va parler, si vous le voulez bien, de la génération Z au travail. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'ils vont décontenancer régulièrement leurs aînés dans leur rapport au boulot. Rémi Oudkiri, quelle est la vision des jeunes sur leur avenir professionnel ?
Leur vision, c'est que le travail ne doit pas empiéter sur leur vie personnelle.
Et leur épanouissement personnel.
C'est-à-dire que, alors, il y en a pour qui le travail, c'est leur passion, et donc ils sont prêts à passer des heures et des heures et des heures au travail. Et puis, il y a ceux qui considèrent que non, je vais travailler, mais je vais aussi prendre ma part sur ma vie personnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans le rapport à la hiérarchie. Là où les choses ont également changé, on le voit très bien depuis une quinzaine d'années. Ils attendent non pas une relation hiérarchique classique, verticale, mais beaucoup plus de participation, de collaboration et d'autonomie également. Et ça, c'est vrai que...
Ils attendent une meilleure considération.
Une reconnaissance.
Faire part de l'équipe tout de suite, quoi.
Oui, faire en sorte qu'on nous fasse confiance, mais qu'on nous suive également, hein, parce qu'on fait des erreurs, on peut rectifier le tir, mais pour rectifier le tir, il faut qu'on nous suive, qu'on soit accompagné. Il y a vraiment ce besoin de casser les hiérarchies, de casser l'autorité, et dans certains secteurs, c'est pas simple. Je pense à l'hôtellerie et la restauration, où les méthodes de management traditionnelles sont très directives et très dures, et on le comprend très bien, parce que c'est des rythmes qui sont pas du tout les mêmes que dans d'autres secteurs, il faut aller vite, il y a des contraintes très forte. Néanmoins, dans ces secteurs-là, et c'est pour ça qu'ils font face aujourd'hui, face à la jeune génération, à des problèmes de recrutement, c'est que la jeune génération n'est plus prête à entrer dans ce moule. Et donc là, soit on change, et d'ailleurs on voit que ça change, puisque ils sont obligés d'aménager des horaires. Il y en a qui ferment désormais le soir, ou qui ferment désormais le week-end. Enfin bref, on s'adapte aussi. Et je pense qu'on ne peut pas aller contre ce nouvel état d'esprit qui n'est pas prêt de changer, qui changera si tout change. Je pense en particulier à l'intelligence artificielle. Si elle est amenée à menacer vraiment les emplois, là peut-être qu'on changera.
Et puis ils ont une vision qui est plus adaptative, je dirais, aux réalités de la société actuelle. C'est-à-dire que leur objectif, c'est pas de travailler toute leur vie dans la même boîte. Peu de fidélité, et puis cette idée que les vents peuvent les amener ailleurs. ils invoquent aussi le réchauffement climatique.
Oui. Ils invoquent... Il a bon dos, le réchauffement climatique.
Non, mais d'accord.
Ça n'a rien à voir avec le boulot.
Bah, ça n'a rien à voir avec le boulot, oui et non. D'abord, il y a des secteurs qui vont le subir.
Oui, je dirais pas. Attends, si dans 10 ans, les conditions de travail sont plus du tout les mêmes parce qu'il y a une crise écologique de grande ampleur, après ça, moi, je suis pas un devin, donc je peux pas le dire.
On a fait une émission là-dessus sur les projections, justement.
Vous ne travaillez pas de la même manière, vous n'avez pas du tout la même façon de regarder l'avenir, et donc vous n'avez pas du tout la même façon de concevoir votre carrière.
C'est ce qu'il évoque, les jeunes.
Ça soit une préoccupation partagée par la société, je l'admets. Maintenant, vous savez, quand on regarde l'histoire des climats, ça a toujours changé.
Oui.
Mais,
très bien. Ça fait partie des choses qu'ils avancent.
Prenons acte.
Je ne sais pas de quoi demain est fait, donc je ne veux pas me tanker dans un boulot toute ma vie.
C'est vrai. Mais bon, d'abord, c'est vrai qu'ils sont parfois assez volages. Ils peuvent quitter une place du jour au lendemain pour un autre job. Ça traduit une formule que j'utilise qui est de dire niveau d'engagement très élevé. Les jeunes, souvent, c'est la passion. Il y a de la passion. Donc vous avez un niveau d'engagement élevé, mais un niveau de résilience assez faible. C'est-à-dire qu'au premier obstacle ou éventuellement à la première tentation, ils vont choisir de quitter l'entreprise. Ouais. C'est aussi ce dont se plaignent un peu les chefs d'entreprise. Il y a quand même malgré tout un antidote à ça. Et moi je pense que les jeunes ne veulent plus entendre parler d'un phénomène qui est celui du fait du prince. J'ai décidé, je suis le patron, j'ai décidé, c'est comme ça, ça ne se discute pas. Ce monde-là, il prend fin, il meurt sous nos yeux. Il faut expliquer, il faut coproduire. Tout à l'heure, Rémi n'a pas prononcé ce mot-là, mais c'était ça. Mmh. En réalité, on coproduit la décision. Parce qu'une entreprise, ça se résume dans un affectio societatis. On est ensemble. C'est un groupe. Certes, il y a une relation de travail, et donc il y a une relation de subordination au patron, mais le patron n'est pas l'empereur. Et s'il est propriétaire du temps de travail des gens, il n'est pas propriétaire des gens. Et il doit partager ses ambitions, ses objectifs, s'il veut que le groupe marche dans la même direction.
Donc, est-ce que c'est bien tout ça, cette façon qu'ils ont d'aborder justement le travail ? Est-ce que ça laisse augurer...
Formidable outil de rénovation.
Une économie florissante.
Ça oblige.
Et un travail florissant.
Non, mais ça oblige les entreprises à changer leur culture. Voilà, donc leur culture de management.
En même temps, il y a des taux de chômage chez les jeunes qui sont assez dingues. Hein. 17,3% chez des actifs âgés de 15 à 24 ans sont au chômage.
Avec des niveaux de formation malheureusement faibles. Ça concerne toujours les mêmes. On en revient au même.
Oui, parce qu'il y en a certains qui font de très longues études et qui ont des grandes prétentions salariales dès qu'ils sortent de leurs longues études, et il y en a d'autres qui se retrouvent sur le bord du travail.
Oui, et on a peu évoqué l'école, le goût de l'effort qui est peut-être moins enseigné, mais il y a beaucoup de décrocheurs. Et en réalité, c'est les gens sans formation aujourd'hui qui ont du mal à trouver un boulot. Au XXe siècle, on pouvait rentrer dans la grande distribution comme employé de libre-service et puis terminer directeur de magasin.
Vrai.
C'est fini. Au XXIe siècle, on est dans un siècle d'ingénieurs ou de qualifications. Il faut des qualifications si on veut trouver un boulot. Donc, bosser à l'école, ça, c'est peut-être un peu ringard comme formule, mais c'est vrai plus que jamais.
Le mot de la fin pour vous, Rémi.
Oui, non, mais on parle toujours de la génération Z, de la jeunesse, comme si c'était un tout homogène. En réalité, non, c'est très divers. Il y a la jeunesse visible, celle qu'on voit dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc., celle qui fait les marches climatiques, par exemple. Puis il y a la jeunesse qu'on ne voit pas. Et dans la jeunesse qu'on ne voit pas, il y a effectivement une jeunesse qui décroche, et qui n'est pas négligeable, qui décroche vraiment. Et d'ailleurs, on est toujours étonné lors de certains votes, de certaines élections, de voir quel vote extrême. Voilà, donc je pense que sur la jeunesse, il faut aussi être bien conscient que c'est un monde, sur le plan professionnel, qu'il faut regarder de façon très plurielle.
Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Rémi Oudguiri, je conseille votre livre « L'échappée belle, l'art de s'évader un peu chaque jour » aux éditions PUF. Pascal Perry, on vous voit, on vous écoute sur LCI. Et puis, on peut lire aussi votre livre « Génération Farniente ». C'est aux éditions de l'Archipel. À bientôt.
Merci.
Merci à vous. Merci à toute l'équipe de Jour J qui travaille d'arrache-pied. Il y a plein de générations dans cette équipe. On a même un Génération Z, dites donc. Regardez-moi ça. Mais ils bossent bien. Voilà, il s'agit donc de Céline Bonnet, quant à Zola, Bastien Robin et Marc Bisset. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL. Bon week-end à lundi. Ciao.